Bonjour, bonsoir à tous. Ceci est une petite interlude qui va nous permettre d'approfondir un peu sur les sujets dont nous avons parlé la fois passée. Ce n'est pas la directe suite des événements relatés sur Septimius Severus et sa guerre qui le confronte à son ennemi juré, mais nous allons plus approfondir sur les deux principes que nous avons appris l'autre fois et la suite de l'épopée de Septimius Severus apparaîtra en fin de semaine, car si vous avez bien remarqué, nous publions des émissions au moins une ou deux fois par semaine, en fin de semaine plus précisément. Donc la fois passée, nous avons parlé des deux lois que nous avons tirées, ou des deux leçons que nous avons tirées de la vie de Septimius Severus et qui concordent avec les principes que Robert Greene a établis dans son livre, à savoir l'une des lois qui était « il faut garder la tête froide » et l'autre était « il faut savoir diviser ses forces ». Dans la vie pratique, c'est ce que nous allons aborder dans ce court segment. Lorsque l'on parle de garder la tête froide, c'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, très souvent, nous devons nous inspirer du stoïcisme dont nous avons parlé, de Zénon de Quiton. Et ça se traduit par le fait que très souvent, nous voyons nos dirigeants, les dirigeants africains, lorsqu'ils sont confrontés, disons, à des forces extérieures par rapport à l'Occident, par rapport à l'Orient, à l'Asie, lorsqu'ils sont en table de négociation, on se rend compte que le rapport de force est inégal, déséquilibré, et nous n'avons pas l'attitude, je dis bien l'attitude, de pouvoir répondre à ce rapport de force. Et voilà pourquoi nous assistons à des contrats léonins, à la Chine qui vient en Afrique, qui prend ce qu'elle veut, et les contrats ne sont pas négociés comme il faut, la France qui vient en Afrique, et d'autres pays qui viennent en Afrique, et les contrats sont souvent déséquilibrés, ça nous le savons. Alors, quelle attitude avoir dans cette position-là? Et malheureusement, on se rend compte, avant d'aborder l'attitude comme il le faut, on va d'abord établir ce qu'il y a comme constat et comment nous pouvons réagir à cette situation. Je prendrai un exemple de ce qui s'est passé réellement récemment en Afrique, en RDC par exemple, en République démocratique du Congo. Il y a un reportage qui est apparu il y a une ou deux semaines, si je ne me trompe pas, où l'on parlait du commerce illégal du bois en République démocratique du Congo, fait par les Chinois. Et les autorités avaient eu à capturer ou appréhender le coupable en question, un certain ressortissant chinois, qui a été jugé, ou du moins il a été écouté à la cour. Et durant le reportage, il a été clairement établi que le monsieur avait vendu illégalement plusieurs bois à des millions de dollars, hein, plusieurs bois précieux à des millions et des millions de dollars. Mais curieusement, il a été relâché pour 18 000 dollars ou 18 000 euros, quelque chose comme ça. On se rend compte qu'il y a donc une mentalité de la pauvreté de la part de certaines personnes. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que ce monsieur a vendu pour des millions, mais on lui demande que de payer 18 000 euros pour pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est une mentalité de la pauvreté. Et je vais illustrer avec un autre exemple que un marketeur assez célèbre a dit récemment, à savoir Grant Cardone disait ceci dans un de ses séminaires récemment. Il disait qu'il sortait d'un hôtel, je crois, à New York, et en se baladant, il y a un SDF ou un pauvre qui l'interpelle et lui supplie de lui donner 25 cents, au moins quelques pièces. Et le monsieur le regarde et il dit, « Ok, tu as réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, tu as attiré mon attention. Mais je vais te donner quand même un conseil aujourd'hui, au-delà de ce que tu demandes. » Il lui dit, « Tu es conscient que tu es dans un milieu où il y a forcément des hommes d'affaires, des hommes riches. Et c'est pas pour rien que tu es là, parce que tu sais qu'il y a ce genre de personnes. Mais tu viens à moi et tu me demandes des cents. » Il est très difficile pour que tu puisses obtenir ce que tu demandes parce que tu vises trop bas. Parce que nous sommes des hommes d'affaires ici et très peu d'entre nous avons des pièces de monnaie en nous. Si tu te présentais, bon ça j'ajoute, hein, il n'avait pas dit ça précisément, mais c'est un commentaire que je fais là. Si le monsieur, le pauvre, le SDF se présentait par exemple, je sais pas moi, à une station de bus, encore que même dans les stations de bus, les gens souvent achètent des tickets, hein. Mais il y a plus de chances parce que parfois il y a des gens qui peuvent avoir des pièces et certains payent avec des pièces. Là, il y a plus de chances. Mais il a choisi un milieu riche. Et le monsieur qui lui dit, Grant Cardone, qui lui dit, il est très difficile que tu obtiennes ce que tu désires parce que tu vises trop bas ici. Ici, il y a des gens qui n'ont que de cartes de crédit dans leur porte-monnaie ou des gros billets de banque. Donc, si tu vises 25 cents ou 50 cents ou centimes, tu les auras pas parce que nous, on n'a pas ça en poche. Ça pèse, ça fait du bruit. On n'en veut pas. Quand tu te mets dans ce territoire, tu dois t'attendre à viser haut. C'est-à-dire que demande-moi au moins 100 dollars. Tu as une chance de pouvoir l'avoir. Parce que tu peux jouer sur l'émotion, je peux avoir pitié de toi et je te donne 100 dollars. Et encore, même si 100 dollars, c'est extrêmement difficile que quelqu'un te les donne comme ça, tu peux au moins avoir 20 dollars. Parce qu'au moins 20 dollars, on peut en avoir dans notre porte-monnaie. Mais si tu vises trop bas avec 25 cents, tu les auras jamais. Demande-moi 100 dollars. Et peut-être par pitié, je peux t'en donner au moins 20. Mais tant que tu viseras 25 cents, tu ne les auras jamais. Où est-ce qu'on va en venir là-dessus? Dans cet exemple de Grant Cardone, le marketeur, et dans l'exemple des autorités en RDC qui ont visé trop bas en demandant à ce monsieur 18 000 euros alors qu'il a vendu des bois de valeur pour des millions, c'est que le pauvre SDF de New York et les autorités ont visé trop bas. Ils méritaient plus et ils ont visé trop bas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mentalité de pauvreté dans beaucoup d'États, que ce soit africain ou ailleurs même. Il y a beaucoup cette mentalité de pauvreté où on demande peu, alors qu'on a le droit de demander plus. Et ça revient à la loi de la troisième loi de Robert Greene en disant qu'il faut garder la tête froide. C'est-à-dire que soit le SDF qui est venu devant le marketeur, il a pas gardé il a paniqué. Il a paniqué. Oh, c'est un homme riche. Je peux pas lui demander plus. Je dois demander juste très peu parce qu'il panique là. Tu n'as pas le sang froid de demander plus. Il panique, donc il demande 25 cents au lieu de demander même 50 dollars ou 20 dollars. Que ce soit les autorités qui ont été face à cet escroc, disons-le, chinois, qui n'ont pas demandé, qui n'ont pas eu la tête froide, mais qui ont paniqué devant le monsieur. Ils savent, oh, c'est un homme d'affaires, il vend pour des millions, donc demandons-lui au moins 18 000 euros, il va peut-être donner. Alors qu'on avait le droit de lui demander 5 millions ou 10 millions, parce qu'il en a vendu autant. Et c'est la même chose dans la loi qui dit justement garder la tête froide. Et c'est ce que Septimus Severus a fait lorsqu'il était entouré de beaucoup de challenges. Il savait qu'il y avait un assassin qui était envoyé vers lui. Il y avait un homme qu'on avait envoyé pour négocier avec lui. Il y avait des armées qui marchaient contre lui. Et même en arrivant à Rome, c'était un nid de vipères car trois empereurs avant lui avaient été assassinés. C'était carrément mission suicide même de vouloir le trône de Rome. On se pouvait même se demander pourquoi il voulait ce trône. Parce que trois empereurs avaient déjà été assassinés avant lui. Mais il a gardé la tête froide, il avait ses ambitions et il a demandé plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi même souhaiter ce trône de Rome qui est un nid de vipères? Pourquoi ne pas rester dans son gouvernorat où il était tranquille? Pourquoi ne pas rester dans cette province où il avait juste son pouvoir et il pouvait rester tranquille? Mais il a visé haut. Il n'a pas cette mentalité de pauvreté, il n'a pas paniqué. Oh, on tue les gens à Rome là-bas, je préfère rester gouverneur de province. Non, il a visé extrêmement haut, alors que c'est extrêmement risqué. Il a visé extrêmement haut, il est arrivé pour y arriver. Et c'est ça, cette mentalité que nous devons avoir. Et ça corrobore avec ce qu'on a dit bien avant, lorsqu'on a commencé le show, par rapport au stoïcisme, par rapport au fait de pouvoir garder la tête froide. Voilà pourquoi nous développons ces éléments ici. Donc, nos dirigeants, ou souvent les peuples africains ou les communautés africaines, lorsque nous allons dans les tables des négociations, très souvent nous allons avec la mauvaise attitude. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport de force que nous connaissons entre l'Occident et l'Afrique, ou l'Europe, ou l'Asie, l'Orient et l'Afrique, mais nous n'avons pas l'attitude de demander plus. Lorsque ces personnes viennent, ils vont nous dire, voilà, on vous propose 1 million, nous paniquons et nous livrons tout. Et c'est ça le grand problème avec les populations africaines. Et très souvent, on se demande, mais pourquoi est-ce que les Africains ont révélé leurs secrets aux étrangers, que ce soit en Égypte ou dans l'Afrique pré-coloniale ou coloniale? Pourquoi certains secrets ont été livrés? Tout simplement parce que certains Africains ont eu la naïveté de penser que l'étranger deviendrait comme lui, c'est-à-dire pacifiste, qu'en connaissant sa sagesse, qu'en connaissant sa mentalité de la maths, par exemple, l'autre deviendrait comme lui. Et je prends souvent cet exemple que l'étranger est un peu comme cet enfant dont un parent paye les frais de scolarité, dépense tout, mais un jour se rend compte que l'enfant a détourné l'argent des frais scolaires qui lui avait été remis, est parti, s'est enfui de la maison pour aller faire la bamboula ailleurs. Et cette déception-là est celle que l'on peut trouver chez les dirigeants africains. Donc cette naïveté de penser qu'en partageant tous ses secrets, l'autre deviendra comme soi. Mais au contraire, ces secrets de l'Afrique partagée ont été utilisés pour militariser et pour dominer la plupart des civilisations africaines. Garder la tête froide, se rendre compte des ressources que l'on a, être exigeant, demander la lune, est donc l'une des attitudes, ou sont les attitudes que les Africains devraient avoir lorsqu'il y a ce rapport de force. Nous sommes souvent découragés par rapport à la puissance des autres, par rapport aux moyens que les autres ont. Mais cet exemple de Grant Cardone par rapport à ce SDF est pertinent. Que si tu demandes que des cents, tu ne les auras jamais, mais tu peux demander au moins 100 dollars. Et de ces 100 dollars, tu peux tirer au moins 20 ou 50. Et c'est ce que l'on doit faire dans ce rapport de force, de la manière dont on se voit, dans ce combat, dans ce challenge que l'Afrique a. Il faut demander la lune, il faut demander plus. Cette mentalité de pauvreté que nous avons de demander des cents, voilà pourquoi nous n'obtenons rien. De demander des miettes, voilà pourquoi nous n'obtenons rien et que le monde se joue de l'Afrique, parce que l'Africain n'a pas conscience de sa puissance, n'a pas conscience de son ancienneté, n'a pas conscience de la richesse et de la science qu'il y a dans ses traditions, qui n'a pas conscience de son histoire, qui n'a pas conscience du temps que cette civilisation, que ces populations ont été dans le monde et de leur influence dans la technologie dans le monde d'aujourd'hui. Cette ignorance-là empêche de demander plus. Et voilà pourquoi beaucoup sont dans l'état de ce SDF-là qui demande 25 cents à un riche, alors qu'il pourrait demander plus. On est dans l'état de ces magistrats qui ne demandent que 18 000 euros ou dollars alors qu'ils pourraient demander plus à celui qui les a volés. Et ce monsieur les a en plus volés, c'est même pas son argent, il les a volés. Au lieu de redemander les millions qu'on leur a volés, il demande non, au fait, oh, non, donne-moi seulement 18 000. C'est comme quelqu'un qui vous vend 100 dollars, qui vous vole 100 dollars. Vous avez la preuve que cette personne vous a volé 100 dollars. Mais vous dites, oh bon, par pitié, simplement, je te demande, rembourse-moi seulement 10 dollars. Ouais, et ça, c'est que ça résulte d'une mentalité de pauvreté. Pourquoi? Parce que dans la tête, on nous a appauvris. On nous a appauvris de l'histoire. On nous a appauvris de ce que nous sommes, de notre identité. Et voilà pourquoi l'Africain demande peu. Voilà pourquoi l'Africain n'a pas, en grande majorité, pas tous les Africains, mais par rapport à ce que nous pouvons demander en tant que population, en tant que grand ensemble, nous pouvons demander plus. Et voilà pourquoi beaucoup foncent toujours dans la même direction au lieu et en place de demander plus, de demander d'avoir d'autres ambitions, plus d'ambition dans l'entrepreneuriat, plus d'ambition dans les sciences et investir plus dans ce que nous sommes. Il y a le coronavirus maintenant qui bat son plein. Il y a des scientifiques africains qui ont des solutions, mais combien les gouvernements ont-ils alloué aux chercheurs qui font des percées là-dessus? Quels sont déjà les antécédents par rapport aux chercheurs africains? Mais ce qu'on entend plutôt, c'est certains qui veulent au contraire aller en Europe pour se faire soigner, alors qu'en Europe, même c'est déjà la situation de crise. Alors, où vont aller se faire soigner les élites africaines? Là où il y a une grande contamination? Ce soleil qui, aujourd'hui, apparemment, les études sont un peu contradictoires, mais apparemment, on nous dit que le soleil a un effet sur le virus. Notre fameux soleil dont on se plaint en Afrique, oh, il fait très chaud, il fait tellement chaud, est une bénédiction. On a parlé dernièrement de la vitamine D, de ses bénéfices. On a parlé de comment la philosophie égyptienne avait déjà compris les effets bénéfiques du soleil sur le plan biologique, physiologique, esthétique. Et voilà pourquoi même dans les mots, dans l'orthographe, dans le vocabulaire, ces capacités où ces manifestations de la noirceur ou du soleil sont liées à ce qui est bien, à ce qui est bon, à ce qui est juste. C'était des gens qui étudiaient la nature, et comme on dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pour encore approfondir par rapport à cet exemple de l'exigence, je me rappelle lorsque j'étais étudiant, il y a environ 10 ans passés au pays, J'avais créé avec une bande de potes un site internet où on avait une page qui était liée aux entrepreneurs, à ceux qui faisaient bouger les choses dans la capitale où on était. Donc on allait, on prenait des rendez-vous avec des chefs d'entreprise, on les appelait, on était étudiants, et on leur demandait, on aimerait bien avoir une interview avec vous. Et très souvent, ils étaient très souvent contents, oui, passez tel jour et on aura une interview. Et on allait avec des potes, on les interviewait, ces chefs d'entreprise, ces responsables. Et il y en a un qui m'a marqué, il s'appelle Florentin Caguet, qui était un chef d'entreprise d'une entreprise qui exploiter le bois, et on est toujours dans le bois, hein, comme on a donné l'exemple du bois tout à l'heure, donc c'est cohérent. Donc il était chef d'entreprise d'une grande entreprise de bois à l'époque, qui s'appelait Parc Afrique, hein, je sais pas si ça existe toujours. Et il nous disait que, bon, un millionnaire, hein, et il nous disait que la chose la plus facile qui pouvait être obtenue, pour lui c'était un avion. Et nous on était étonnés, un avion, quoi. Non, un avion c'est cher, c'est difficile à obtenir. Il a dit oui, il nous dit, oui, la réaction que vous avez, c'est la même réaction que moi j'ai eu aussi. Quelqu'un me disait que la chose la plus facile à obtenir, c'était un avion, parce qu'il cherchait à avoir un avion, acquérir un avion pour la compagnie. Et lui pensait que c'était compliqué. Et quand il a commencé les démarches, on lui dira, non, en fait, avoir un avion, c'est extrêmement facile. Et même pas très si cher que ça. Il dit comment? Il a dit, en fait, beaucoup de compagnies aériennes doivent renouveler leur flotte. Donc ils sont très enclins à vouloir se débarrasser des anciens avions, de l'armada qu'ils ont avant, et de pouvoir acheter de nouveaux. Donc tous les anciens avions qu'ils ont, les stocker quelque part, les garder, ça coûte de l'argent, c'est un casse-tête, de logistique, tout ça. Donc ils ont envie de s'en débarrasser très rapidement et même à moindre coût. Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'était rendu compte qu'il avait pu avoir un avion à moindre prix, beaucoup moins que ce qu'il pensait à l'époque. Et le jour où j'ai acheté mon avion et où l'avion atterrit à l'aéroport comme ça, j'étais là, je croyais pas. Donc il nous a dit ça, il a dit que voilà, dans la vie, vous devez avoir des ambitions et ne pas vous limiter, parce que ce que vous pensez être grand, au fait, c'est facile de l'obtenir in fine. Et je m'en suis rappelé lorsque j'ai commencé à traiter cette émission, que ce qu'il nous avait dit il y a plus de 10 ans passé se rapporte aussi bien à ce que Grant Cardone, le marketeur, a dit à ce SDF. Et c'est la réalité que j'ai remarqué aussi avec ce reportage sur les juges qui n'ont demandé que 18 000 euros à un monsieur qui les a volés des millions. Et lorsqu'on n'a pas le courage, l'audace, ou simplement même la nature de demander plus, on n'obtiendra jamais. Et si parce que quand on n'a qu'une mentalité de pauvre, on demandera toujours ce qui est minable. Et c'est la réflexion que Septime Sévère avait, que s'il restait simple gouverneur de province, il aurait peut-être été assassiné par d'autres qui l'auraient considéré comme une menace potentielle, parce qu'à cette époque-là, Rome, on s'assassinait comme on achète du pain. Hein. Il avait tout intérêt à arriver au sommet du trône, parce que les empereurs Septime Sévère avaient déjà une réputation. Donc, s'il restait simple gouverneur de province, quelqu'un serait certainement venu pour sa tête en disant « Ah, c'est peut-être un potentiel challenger, je dois m'en débarrasser. » Parce que c'était déjà un homme de tête. Il avait tout intérêt à être au-dessus, mais malgré tous les dangers, parce qu'il ne pouvait pas se dire « Je vais seulement rester là pour être safe, pour être en sécurité. » Il avait tout intérêt à aller au sommet de Rome pour être en sécurité. Et même si c'était un lit de vipère, même s'il y avait tous ces dangers qui le guettaient, il avait tout intérêt à être là, car c'est là où il y avait plus de sécurité qu'en restant simple gouverneur de province. Et voilà pourquoi c'est un exemple où parfois la sécurité que l'on cherche est justement notre tombeau. Et le danger que l'on évite est justement notre citadelle de protection. Évidemment, cela étant dit, on ne demande pas de prendre des risques non calculés, car tous les risques doivent être calculés. On ne dit pas aux gens, par exemple, avec ce qui se passe maintenant, si on dit qu'il faut rester prudent dans la maison, sortir parce que il faut prendre le risque. Non, il faut prendre des risques calculés. Septime Sévère s'est lancé dans des risques calculés. Il faut avoir des ambitions, mais il faut avoir des ambitions préparées, des ambitions calculées, et non pas des ambitions juste improvisées. Et même l'improvisation, ça se prépare. Et lorsque l'on passe de préparation, ça nous fait directement sauter ou passer à l'autre loi que nous avons exploité la fois passée, qui était celui de diviser ou séparer ses forces. Septime Sévère s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas combattre deux ennemis en même temps. Il a préféré faire une alliance avec Albinus afin de combattre Niger, car avoir les deux à dos était dangereux. Il a préféré séparer, avoir une alliance avec Albinus et pour se focaliser complètement et préparer l'assaut final par rapport à Niger. Et c'est exactement la même chose que nous devons faire dans notre quotidien. Séparer les choses, voir les priorités, avoir une priorité sur telle chose ou autre. C'est ainsi qu'on peut arriver au bout de nos objectifs. Voilà donc, nous allons mettre un point final à notre petite interlude. Parfois, dans les grands segments, on se focalise un peu plus sur l'aspect historique, bien qu'on essaye de toucher aux lois dont nous avons parlé dans le livre de Robert Greene. Mais parfois, on a envie aussi de pouvoir toucher ce qu'on voudra toujours faire, toucher les points qui sont liés à la vie quotidienne, hein, car ça c'est l'histoire, oui, mais en quoi est-ce que c'est utile dans le monde que l'on obtient, qu'on observe aujourd'hui? Parce que parfois on peut se poser des questions, oui, c'est bien beau l'histoire, mais maintenant c'est un autre monde, oui, mais on se rend compte que ces principes sont toujours utiles, que les principes ne meurent jamais. Les hommes passent, mais les principes demeurent. Donc on a voulu approfondir avec ce genre d'exemple un peu plus concret par rapport au monde que nous voyons aujourd'hui. Nous essaierons d'insérer ces points-là dans les grands segments, mais au cas où l'histoire ou l'historique prendrait beaucoup plus de temps, nous allons faire des interludes où nous parlerons un peu plus des applications modernes ou contemporaines, et ensuite nous reprendrons avec un autre thème. Et nous essaierons de faire un effort de les inclure dans les grands segments. Quand nous ne pourrons pas le faire, il y aura des interludes pour approfondir un peu avant de passer à la prochaine loi ou au prochain sous-thème des 33 stratégies africaines de la guerre. Merci beaucoup. Nous attendons vos réactions. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages audio à travers l'application ou un email à mizele88@gmail.com. Merci beaucoup. Nous attendons vos suggestions. Passez une bonne journée. Protégez-vous et bye bye.